Phénomène Paco.
Hein?
Je sais pas.
C'est quoi cette
non, non, à mon avis. Paul, Paul, erreur, notre réalisateur.
Paul, il y a une erreur, Paul. Paul, on ne comprend rien.
Phénomène Paco.
Ah, je sais pas.
Bon, c'est pas grave. Bon, Paul, tu nous expliqueras.
Ouais, attendez, tu sais, c'est Paul, hein. Paul, des fois, c'est difficile à suivre.
Quand Didier Quillot a pris la tête de la LFP, qu'il en est devenu le directeur général, l'une de ses premières
avec
idées.
Avec un certain brio.
Et de ses très bonnes idées, c'était, en tout cas, c'était son intention, faire venir, parce qu'il avait, comme tout le monde, il s'était aperçu qu'il y avait peu d'investisseurs dans le foot, en tout cas déjà peu de Français fortunés qui étaient à la tête des clubs de foot. Et comme il voyait que certains voulaient passer la main, il a fait le tour. Il est allé chercher des gens à l'étranger, il s'est baladé un peu partout dans le monde pour que des gens avec de l'argent viennent. C'est pas lui pour le Qatar, clairement, mais il a suivi les dossiers de près avec plus ou moins d'implications dedans, mais Bordeaux, Marseille, il est au courant de ce qui se passe, Nice, et il a suivi ça avec intérêt. Cumulé à son travail pour augmenter les droits télé, et ça, ça a porté ses fruits. Gérard Lopez aussi a suivi le dossier, j'avais oublié ce dossier-là. Donc, il pouvait y avoir comme une satisfaction qu'on a partagée avec lui, que j'ai partagée en disant c'est très bien puisque de toute façon il n'y avait plus de mecs prêts à mettre de l'argent dans le foot français, autant aller chercher des mecs qui vont vouloir investir dans notre football. Le problème, et ça je sais pas si lui l'avait anticipé, c'est qu'aujourd'hui moi je suis très très inquiet. Pour moi c'est plus qu'une sonnette d'alarme, ce qui vient, qu'il faut tirer après ce qui s'est passé à Nice. On s'y attendait parce que ça faisait un petit moment qu'on savait que River et Fournier allaient passer la main. Mais là, clairement, on s'est retrouvé en présence de tout ce qu'il peut arriver dans les clubs détenus par des investisseurs ou fonds d'investissement qui sont là avant tout pour la performance économique plus que pour la sportive. Il s'est passé cet été le truc malheureusement attendu, à savoir qu'on s'est chamaillé pour des transferts, que les dirigeants voulaient des joueurs à des postes et qu'on leur a répondu « Non, non, ce qu'il faut prendre, c'est des mecs vendables. » Et là, je pense que River et Fournier ont tout compris et se sont dit « C'est fini. » Ils ont accompagné, parce que de toute façon, c'était prévu qu'ils allaient partir, qu'ils partent. Hein. Donc, ils ont accompagné le changement. Je ne sais pas si c'était prévu qu'ils partent si tôt. En tout cas, là, ils ont bien compris que c'était fini, qu'on passait dans quelque chose de nouveau. On en revient un peu à ton thème de tout à l'heure. Que peut faire Vira dans un tel contexte? Ça va être extrêmement compliqué maintenant. Parce que lui ne pourra plus recruter pour renforcer l'équipe, mais devra recruter avec du bankable. C'est-à-dire avec du joueur derrière, ouais. À revendre. À terme, est-ce que, j'en sais rien, Saint-Maximin qui ferait le con machin pourrait être sanctionné? Le propriétaire va lui dire, tu déconnes pas, parce que c'est notre plus grosse valeur marchande, il faut le vendre. Donc mets-le sur le terrain, parce que s'il est capable de dribbler trois mecs et de mettre un but, ça fera le tour des télés et il garde sa valeur et en tout cas il n'en perd pas parce qu'il a pas fait ci, il a pas fait ça. Ça c'est pour Nice. Pour Sochaux on met de côté, c'est coulé. Pour Lille c'est ce qui n'apparaît pas comme le risque le plus gros parce que les performances sont bonnes cette année. Ça c'est ce que j'appelle le leurre. C'est très bien, ça marche, on vend. Alors si Campos bosse bien, il va renforcer avec 2-3 mecs, il va acheter 2-3 millions et qui en refera vendre. Mais de la même façon, il faut pas que les supporters lillois se leurrent de quoi que ce soit. Derrière, il peut pas y avoir autre chose que la recherche du bénéfice et pas de la performance sportive qui peut être juste un phénomène de cette année. Parce que quand on aura enlevé 2-3 joueurs, l'année prochaine, tu continueras ton trading, mais il y a aucune garantie que le résultat perdure. Bordeaux, alors là, je pense que on sera au sommet du trading. Là, clairement, ça a été annoncé, il y a aucun espoir.
Mais il y aura plus de qu'aux buvettes.
Effectivement. Monaco me revient souvent dans la tronche quand je dis ça, parce qu'on me dit, ouais, mais non, mais regarde, à Monaco, ça a pu permettre de... C'est pas exactement la même chose, Monaco. Et si demain, un investisseur, d'abord, on parle pas de fonds d'investissement, mais là, en l'occurrence, c'est d'un investisseur. C'est pas la même chose que les fonds d'investissement où on sait pas où est l'argent et tout, comme à Bordeaux, ou comme à Lille, où il doit déjà de l'argent partout, et les mecs, en fait, s'ils ont pas retiré leur bille, c'est dans l'espoir d'en retrouver une partie tellement ils en avaient déjà perdu. Ça, c'est un gros risque. J'en parlais déjà de l'année dernière, ça. Monaco, le mec, il est quand même venu, il a mis 250 millions sur la table. Je suis pas sûr que quelqu'un parmi dans les autres clubs que j'ai cités pourra le faire. Et quelque part aussi, c'est le problème, et que j'en parlais hier quand je parlais de l'OM, mais c'est ma courte, c'est la même chose. Faut pas rêver, supporter marseillais, je suis désolé, il est pas là, même s'il le dit, la performance sportive, ça va être surtout de pas perdre de l'argent d'abord, et d'essayer de revendre quand il pourra trouver un bon joueur, ce qu'il n'a pas réussi à faire pour l'instant. Donc on est face à ça.
Sa conclusion ?
La conclusion, c'est que je vois dans ce championnat un PSG qui ne pourra pas être touché. Un Lyon, j'en ai pas parlé de Lyon, parce que ça semble être le cas à part. Mais il y a des phrases de Jean-Michel Aulas parfois ces derniers temps qui me font un peu douter. Sa sortie sur la Coupe de la Ligue, la Coupe qui sert à rien, on s'en fout d'avoir perdu. L'important, c'est effectivement d'aller dans la Ligue des Champions, mais à quel niveau de Ligue des Champions et qu'est-ce qu'on veut faire vraiment? Et on continue avec Genesio parce que ça sert à rien de toute façon d'aller prendre un entraîneur renommé parce que lui, avec moi, on suffit à boucler le club à la deuxième place, à faire briller nos jeunes et à les vendre.
L'objectif est pas de finir.
On est là, on est également dans cette réflexion-là. Lui aussi a des actionnaires derrière. Lui aussi, il y a 20% de Chinois qui détiennent le club. Lui aussi a des comptes à rendre, quelque part. Donc on est face à toute cette nouvelle mouvance dans notre football, face aux derniers de ce qui sont les petits entrepreneurs locaux, là, Nantes, Angers, qui bossent bien, mais qui sont dans la même optique. Hein, s'ils peuvent refourguer des joueurs à tout, de toute façon, on n'attend pas d'eux qu'ils dominent le championnat ou qu'ils tirent le championnat vers le haut. Et toi qui disais, ouais, mais toi, t'es pessimiste et machin, ceci, cela. Ce matin, je lis l'édito dans France Football. Ils n'étaient pas connus pour être méga pessimistes non plus et voir les choses comme ça. Lis l'édito, lui aussi est un peu pas loin de mon pessimisme à dire que
Jérôme,
la Ligue 1 file un mauvais coton de ce côté-là.
Ton point de
et
vue.
On pourrait devenir. Je rajouterai un truc après, pardon.
Mais en fait, très clairement, moi je l'ai connu déjà quand j'étais joueur au Paris Saint-Germain, quand Colony Capital est arrivé au club.
C'était la même chose. Voilà. Bravo, exactement.
Et moi j'étais arrivé sous Canal quand Colony a pris le club, on a vite compris. Pourtant, ils en ont raconté des belles et des pas mûres. Je suis parti à cause de ça parce qu'on m'avait promis des choses et je me suis accroché en restant 5 ans sous l'ère, du moins quasiment 5 ans sous l'ère Colony Capital. Où tu t'aperçois quand t'es dans le club, mais après, là aujourd'hui, tout le monde s'en aperçoit, que ça soit les supporters, les gens du milieu, les gens qui sont amoureux du football, ces investisseurs-là, ils viennent pour ne pas perdre d'argent déjà, pour essayer d'en faire, de gagner de l'argent, et en aucun cas leur priorité, c'est déjà de augmenter le palmarès des clubs sportivement. Qu'est-ce que on peut faire en championnat? Quelle coupe on va gagner? En effet, je rejoins Daniel. Ça m'a choqué et ça n'a jamais été le cas. Mais Jean-Michel Aulas, sa dernière déclaration sur Coupe de la Ligue. Alors, je veux bien qu'il masque un petit peu les choses, mais j'ai pas trouvé ça très clair et c'est pas bon signe pour l'Olympique Lyonnais, surtout un club qui a pas gagné de titre depuis pas mal d'années. Pour les autres, c'est la même chose. À Nice qui arrive, c'est dramatique. Alors, en espérant que River arrive à retrouver une solution, il cherche, c'est ce qu'il nous disait hier dans Team Duga, mais c'est pas sûr. Tout le reste, Sochaux, ça a été plombé. Lille, en effet, ça marche cette année. L'année dernière, c'était catastrophique. Ils étaient au bord de la rupture. Et ça va être de plus en plus comme ça, malheureusement. Et je pense que déjà les clubs, on le ressent. On le ressent au niveau européen où on n'a jamais trop existé. Il y a eu en effet des bonnes périodes, des bonnes épopées, mais c'est insuffisant par rapport à ce que le football représente ici en France. Et je pense que ça va être de pire en pire. On retire le Paris Saint-Germain, il y a que le Paris Saint-Germain sur qui on peut compter à long terme parce que les Qataris sont arrivés et ont mis beaucoup d'oseille. Et que eux, en effet, il y a tellement d'argent que leur priorité, c'est de développer le football à Paris, de ramener des titres et pourquoi pas une Ligue des Champions. Mais sinon, le reste, c'est... Je pense qu'on va pas dans le bon sens.
Et je vais ajouter.
C'est un mouvement global. Hein. Je veux dire, c'est pas qu'en France. L'Angleterre a été le premier à prendre ce virage des investisseurs là en vendant les bijoux de famille.
Et le problème, c'est qu'ils sont
donc c'est ouais, moi je suis très nostalgique des présidents Maquignon, les mecs qu'on avait à l'époque là, les Martel, le problème c'est Hamel, les compagnies, mais c'est fini.
Mais attention, parce que le problème c'est qu'en Angleterre sont les plus riches ils sont allés, ont acheté les clubs chers. Aujourd'hui ce sont des clubs qui sont valorisés, qui valent des fortunes. Nous on a récupéré simplement les fonds de tiroir des fonds d'investissement. Là-bas ils sont dans l'optique quand même. Bon, c'est vrai que mine de rien, il y a aussi quelque chose de dérangeant chez eux. Par exemple, si tu prends l'exemple de Manchester United, grosso modo, leur c'est quand même c'est le club le plus riche du monde. Hein. Grosso modo, les propriétaires n'ont pas grand-chose à cirer de gagner. Hein.
Bah oui.
Tant qu'ils maintiennent leur position de club le plus riche du monde et de diffuser le match pour que ce soit visible sur le continent asiatique, pour eux c'est bon. Et on a vu la même chose avec Arsenal.
Tout le décalage entre les supporters qui veulent de la passion et
sur ces dernières années, Arsenal, c'était la même chose quand les propriétaires disaient tant que Wenger nous met en Ligue des Champions, on est bien, on n'a pas besoin de gagner de titres. Mais je vais terminer sur un point important que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que bon, évidemment cette politique économique qui va être basée sur le trading de joueurs en France, ça va faire que en gros, d'ailleurs, c'est ce qu'on est devenu, une sorte de centre de formation pour l'Europe. On est en Europe le premier exportateur de joueurs, le deuxième dans le monde.
Bon, ça joue souvent été le cas. Hein.
Franchement, alors ça pourrait paraître un peu science-fiction, mais tu peux très bien envisager demain que dans certains clubs, on engage des mecs qui soient béton sur la formation et que tu formes en fonction du championnat dans lequel tu veux vendre. Par exemple, toi, tu deviens le spécialiste de la fabrication du box-to-box parce que tu sais que tu vas pouvoir vendre dans tel et tel club en Angleterre, les clubs classés entre 5 et 10 qui ont besoin de ce genre de joueurs-là. Tu peux très bien en arriver à cette réflexion complètement entrepreneuriale de tiens, on va fabriquer tel type de joueur pour tel club et tel championnat. C'est un peu ce qui est en train de devenir le foot, mine de rien, et surtout chez nous en France. Et ça, je trouve qu'on est, on le dit pas assez, on est quand même à un virage assez inquiétant.
La vérité, c'est que il faudrait qu'on consacre un after, au moins une heure d'after à ce sujet avec un spécialiste un jour qui vienne nous expliquer. On va le faire un peu tout à l'heure, mais qui vienne clairement parler de tout ce qui est processus de reprise, de revente, etc. Et puis que les supporters puissent avoir la parole aussi, parce que il y a un décalage complet entre ce que vivent les supporters qui eux sont là pour se faire plaisir, pour que leur équipe gagne, pour gagner le championnat, la coupe, machin. Ouais. Et puis ces investisseurs qui, comme le dit Daniel, gagner finalement s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit rentable. On en reparlera bien sûr, c'est un sujet important.